Charles Baudelaire, qui est né en 1821, mort en 1867, est l'un des poètes les plus célèbres de la poésie française et peut-être le plus célèbre du 19e siècle. De nombreux Français, de nombreuses Françaises, passant à travers le système éducatif, ont croisé son nom, lu au moins un de ses poèmes, voire eu dans les mains Les Fleurs du Mal, son seul et unique recueil de poésie. Il existe, pour l'interprétation de cet auteur, une doxa scolaire qui s'est établie, construite au fil des décennies, et qui, entre autres, tend à en faire, d'un côté, le poète du spleen et de l'autre, le poète de l'idéal. Et le poète, c'est ainsi que la doxa scolaire le présente, vit dans un monde matériel qui l'ennuie, qui le tourmente, qui l'angoisse, et qui l'amènerait à vouloir fuir cet univers vers les cieux, les nues, les terres, vers un idéal auquel il aspirait, mais qu'il aurait beaucoup de mal à atteindre. Cette vision manichéenne, binaire, de la posture poétique de Baudelaire se retrouve dans divers thèmes qu'on associe traditionnellement à son œuvre. Par exemple, la représentation de la femme. On met en avant la fascination que ces poètes mettent en scène pour les prostituées. Et en même temps, on lui attribue une aspiration vers une représentation sublimée du féminin qui s'incarne soit à travers l'image de la mère, soit à travers l'image d'une sainte inspirée, bien sûr, par la Vierge Marie, ou encore une incarnation parfaite de la beauté avec un B majuscule. Cette représentation-là du poète n'est sans doute pas évidemment erronée, mais elle simplifie beaucoup ce qui fait l'originalité, la force de ce que l'on peut appeler la poésie de Baudelaire. Je voudrais donc aujourd'hui vous présenter une approche de Baudelaire qui soit un petit peu plus nuancée, un petit peu plus, je l'espère, riche et enthousiasmante, et qui, entre autres, vous allez voir, s'appuie sur les représentations, les thèmes, les images qui pouvaient circuler à l'époque où Baudelaire a composé son œuvre, dans les années 1840-1850, et qui explique, si on le replace dans le contexte historique, sociologique, culturel de l'époque, l'entreprise poétique qui a été la sienne. Baudelaire, né, je l'ai dit tout à l'heure, en 1821, est donc un adolescent qui, à la fin des années 1830, s'intéresse à la poésie et qui, très vite, on pense probablement dès 1836, 37, 38, écrit de la poésie alors qu'il est encore au lycée. Mais faire ceci à son époque et à son âge, ce n'est absolument pas original. En effet, apprendre à faire des vers, et j'emploie volontairement cette tournure un peu prosaïque, faisait partie de l'apprentissage normal de tout bon lycéen à une époque où seuls quelques élus allaient jusqu'au lycée. Et il était d'usage, quand on était un jeune homme, d'écrire des vers. C'était donc une pratique qui était tout à fait courante et en même temps extrêmement formatée. Tout le monde connaissait les fameuses règles de versification qui aujourd'hui sont souvent méconnues. Vous en donner une idée, dans la seule décennie 1840-1850, alors que Baudelaire va donc aller de ses 20 à ses 30 ans, la bibliographie de la France recense 1800 poètes différents et publiés, dont 340 ont publié plus d'un titre. Il y a donc une très grande activité poétique également sur le plan éditorial. De même, entre 1833 et 1845, on dénombre la création de 1600 journaux, dont la plus grande partie publie des poésies. Il était usuel dans les journaux, quelle que soit leur périodicité, les équivalents de la presse d'aujourd'hui, de trouver insérés des poèmes, parce que ça faisait partie des éléments qui divertissaient le public, qui l'intéressaient, qui lui faisaient éprouver des émotions. La poésie était vraiment une pratique sociale largement développée, du moins bien sûr, chez les gens qui lisaient la presse, lisaient la littérature et avaient reçu une certaine éducation. On trouve ainsi dans la revue des Deux Mondes du 15 novembre 1847 un témoignage de Charles Loindre qui dit ceci: dans la vie des hommes de lettres de notre temps, la poésie forme un épisode inévitable. Et ce témoignage n'est qu'un parmi beaucoup d'autres. Je vais vous donner également un exemple très connu, j'imagine une partie d'entre vous, c'est la fameuse Saison en enfer de Rimbaud. Dans ce texte, Rimbaud, eh bien, en fin de compte, joue sur un cliché qui était largement connu à l'époque, qui était celui de l'adieu à l'enfance, mais l'adieu à l'enfance qui, chez Rimbaud, prend la forme de l'adieu à la poésie. Parce qu'écrire des vers, écrire de la poésie, c'était typiquement une attitude, non pas enfantine, mais disons adolescente, tellement cette pratique était répandue. Et parfois, les plus grands prosateurs et les plus prolixes, comme par exemple Jules Verne ou Émile Zola, dans leur jeunesse, ont été tout d'abord des poètes. Alors, le fait que la poésie soit quelque chose qui soit extrêmement répandu dans les pratiques sociales et culturelles du temps, fait que, évidemment, c'était au-dessus une pratique qui s'était fortement figée. Figée par la versification elle-même qui formatait les textes, mais aussi par les idées, les images, les phrases, les tournures que l'on trouvait sous la plume de ces auteurs, que ce soit des auteurs en herbe ou des auteurs publiés. Chez Baudelaire lui-même, on trouve des banalités. Je vais vous en donner un exemple. Ce sont des extraits de différents poèmes des Fleurs du Mal. Un rêve sans fin, des regards familiers, de noirs bataillons, des amours défunts, la crinière lourde pour désigner la chevelure d'une femme, ainsi qu'un nouveau-né pour traduire une émotion que ressent le poète face à la découverte, par exemple, de l'amour. Pendant les nuits d'hiver, un vaisseau qui prend le large, les cheveux au vent, tout imprégné de quelque chose, tout imprégné d'odeur chez Baudelaire, ou encore plongé dans tes beaux yeux, dans vos beaux yeux, comme dans un lac, etc. Ces images sont toutes des clichés que Baudelaire utilise, mais bien sûr il n'utilise pas que des clichés, sinon il ne serait pas devenu le grand poète qu'il est. Mais ces images-là, on les retrouve chez tous les auteurs du temps. Autre paramètre dont il convient de tenir compte, c'est que lorsque Baudelaire arrive sur ses 20 ans, lorsqu'il est encore au lycée Louis le Grand, puis qu'il va ensuite commencer sa vie d'artiste dans les milieux bohèmes de la capitale qu'il fréquente au début de sa vingtaine assidûment, eh bien, les grands poètes romantiques, vers 1840, donc, sont en fin de compte sur le déclin. Chateaubriand, Lamartine sont relativement âgés, ils s'effacent en quelque sorte du paysage littéraire. Baudelaire, par exemple, va évoquer ainsi Chateaubriand, qui était né en 1768, donc il avait 72 ans en 1840. Chateaubriand, toujours plein de force, mais comme couché à l'horizon, semblait un Athos qui contemple nonchalamment le mouvement de la plaine. Alors, sembler un Athos, ça n'a rien à voir avec les Trois Mousquetaires, ça désigne le mont Athos, bien sûr, en Grèce. Donc, ces images, couchées à l'horizon, un mont qui domine une morne plaine, en quelque sorte, crépusculaire, montre bien le sentiment qu'avait Baudelaire que la poésie romantique était en train de disparaître, de s'éteindre. Hugo, en 1840, était encore relativement jeune, il allait sur ses 40 ans, mais c'est le début des années 1840, c'est la période où il va perdre sa fille Léopoldine et où il va momentanément se mettre comme en retrait également de l'écriture poétique. Et puis on peut penser à Sainte-Beuve, qui s'est fait connaître par sa poésie, mais qui ensuite, vieillissant, essayant d'écrire essentiellement de la prose. On peut penser à Musset, qui disparaît également dans la décennie 1840, ou encore Béranger, poète chansonnier, mais extrêmement populaire à l'époque, qui lui aussi va voir sa voix diminuer à ce moment-là. C'est ainsi que Baudelaire a l'impression que le romantisme et la poésie romantique, qui était donc la grande école qui incarnait la poésie dans le contexte social-culturel que j'ai posé à l'instant, eh bien, Baudelaire avait l'impression que cette poésie était en train de disparaître. Ça se traduit par exemple dans un sonnet qu'il a composé et qui s'appelle « Le coucher du soleil romantique ». Que le soleil est beau quand tout frais il se lève, comme une explosion nous lançant son bonjour. Bienheureux celui-là qui peut avec amour saluer son coucher plus glorieux qu'un rêve. Je me souviens, j'ai vu tout, fleurs, sources, sillons, se pâmer sous son œil comme un cœur qui palpite. Courons vers l'horizon, il est tard, courons vite, pour attraper au moins un oblique rayon. Mais je poursuis en vain le dieu qui se retire. L'irrésistible nuit établit son empire, noire, humide, funeste et pleine de frissons. Une odeur de tombeau dans les ténèbres nage, et mon pied peureux froisse au bord du marécage des crapauds imprévus et de froids limaçons. Alors vous voyez, ce sonnet s'arrête sur une note ironique avec le poète qui marche sur des crapauds et des limaçons, mais tout le début du texte traduit très bien cette angoisse, cette anxiété de ce soleil qui disparaît et qui est symbolique de toute une poésie qui s'en va, voire qui s'en est allée. La crise de la poésie, en fin de compte, que Baudelaire éprouve, ressent en lui-même, s'explique donc par le fait que, d'un côté, l'idéologie romantique semble être en train de s'effondrer, elle qui prenait l'originalité, et d'un autre côté, dans les milieux dans lesquels il vit, les milieux qu'il fréquente, la poésie est une pratique, on l'a vu, banalisée, usuelle, formatée, si bien qu'il y a comme un hiatus entre cette idée que le poète se devrait d'être original, qui est une des grandes idées romantiques, personnelles, et l'impression que la poésie est devenue sclérosée par la manière dont elle est utilisée par le plus grand nombre, et en même temps, qu'elle est vieillissante compte tenu des grands ténors qui l'ont, par le passé, incarné. Et donc, Baudelaire va très vite, alors qu'il est encore tout jeune homme, considérer que ce qui empêche de faire de la poésie, c'est que on ne parvient pas à écrire une poésie, on ne parvient plus à écrire une poésie qui serait celle du monde dans lequel l'on vit au jour le jour. Cette critique, cette conviction-là, c'est quelque chose qui va l'amener donc à construire son projet poétique en opposition à ce qui s'était fait avant lui et à ce qui se faisait encore à ce moment-là autour de lui. Il existe une très célèbre citation d'extrait d'un discours de Paul Valéry qui s'appelle « Situation de Baudelaire », qui est cité dans de nombreux ouvrages sur le poète, mais je vais relire car elle synthétise assez bien, on pourrait dire, l'état d'esprit dans lequel se trouvait Baudelaire lorsqu'il construit son projet poétique autour des années 1840. Je cite Valéry. « Plaçons-nous dans la situation d'un jeune homme qui arrive en 1840 à l'âge d'écrire. Il est nourri de ceux que son instinct lui commande impérieusement d'abolir. Son existence littéraire est nécessairement suspendue à la négation, au renversement, au remplacement de ces hommes qui lui semblent remplir tout l'espace de la renommée et lui interdire l'un le monde des formes, l'autre celui des sentiments, un autre le pittoresque, un autre la profondeur. Le problème de Baudelaire devait donc se poser ainsi, être un grand poète, mais n'être ni Lamartine, ni Hugo, ni Musset. » Cette partie du discours de Valéry est en fin de compte inspirée par, lui a été inspirée par Sainte-Beuve dans un plaidoyer que le poète a envoyé à Baudelaire lorsque celui-ci subissait un procès à l'été 1857 suite à la publication des Fleurs du Mal. Sainte-Beuve avait écrit, et c'est de ses paroles assurément que Valéry s'est inspiré, je cite, « Tout avait été pris dans le domaine de la poésie. Lamartine avait pris les cieux, Victor Hugo la terre et plus que la terre, Laprade les forêts, Musset la passion et l'orgie éblouissante, d'autres le foyer, la vie rurale, etc. Théophile Gautier l'Espagne et ses vives couleurs. Que restait-il? Ce que Baudelaire a pris. Il y a été comme forcé. » Sainte-Beuve voulait, dans son plaidoyer, expliquer pourquoi Baudelaire avait choisi des thèmes soi-disant immoraux pour exprimer, traduire sa poésie. Et c'est maintenant sur cette immoralité que j'aimerais travailler. Mais auparavant, et toujours pour cadrer le travail de Baudelaire, Vous citez un extrait du salon qu'il a, de 1846. Le salon, c'était un exercice littéraire à l'époque très usuel, à une époque où on ne reproduisait pas facilement les tableaux. Chaque année se tenait donc un salon de peinture que l'on appelait par ellipse le salon. Et il était d'usage que des écrivains rendent compte des œuvres dans la presse, un travail pour lequel ils étaient rémunérés. Et donc Baudelaire a écrit comme cela quelques salons. Dans son premier salon, celui de 1846, il écrit ceci: « La poésie gît dans l'âme du spectateur et le génie consiste à l'y réveiller. » Alors, cette idée que le génie du poète, ça serait de réveiller la poésie qui est dans l'âme du spectateur, comment cela peut-il se construire? Dans le salon qu'il écrira 2 ans plus tard, en 1848, alors qu'il parle des peintres, il est très clair que Baudelaire parle aussi des poètes. Et il écrit ainsi à propos du romantisme qu'il cherche à définir dans le salon de 1848. « Le romantisme n'est précisément ni dans le choix des sujets, ni dans la vérité exacte, mais dans la manière de sentir. Pour moi, le romantisme est l'expression la plus récente, la plus actuelle du beau. Il y a autant de beauté qu'il y a de manière habituelle de chercher le bonheur. » Alors, on voit ici une définition du romantisme qui fait qu'on peut penser que Baudelaire, à son époque, même si ce n'est pas l'étiquette que l'histoire littéraire lui a ensuite accolée, se pensait comme romantique. Il voulait être lui aussi un romantique comme l'avaient été ses aînés. Mais pour l'être, il convient, comme il le dit ici, de trouver une manière de sentir qui soit propre à soi et d'exprimer à partir de là une beauté qui soit propre à soi-même, à l'artiste. Il parle des beautés et non pas d'une beauté. Un petit peu plus loin, il précise son idée, comme suit, en parlant des dessinateurs. Le dessin du grand dessinateur doit résumer l'idéal et le modèle. Mais comme il n'y a pas de circonférence parfaite, l'idéal absolu est une bêtise. Les poètes, les artistes et toute la race humaine seraient bien malheureux si l'idéal, cette absurdité, cette impossibilité, était trouvée. Qu'est-ce que chacun ferait désormais de son pauvre moi, de sa ligne brisée ? Un petit peu plus loin, il écrit de même. L'idéal n'est pas cette chose vague, ce rêve ennuyeux et impalpable qui nage au plafond des académies. Un idéal, c'est l'individu, redressé par l'individu, reconstruit et rendu par le pinceau ou le ciseau à l'éclatante vérité de son harmonie native. Alors j'ai voulu vous lire ce passage parce que tout à l'heure, lorsque j'ai commencé à évoquer Charles Baudelaire, j'ai rappelé que cette dichotomie entre le spleen et l'idéal, qui est le titre d'ailleurs du premier, de la première section des Fleurs du Mal, eh bien, était souvent une dichotomie à laquelle on réduisait le poète en imaginant qu'il voulait s'envoler vers l'idéal. Or, que nous dit ici Baudelaire ? L'idéal absolu est une bêtise. C'est une absurdité, c'est quelque chose qui n'existe pas ou qui est ennuyeux. Le poète doit associer à une certaine idéalité, son moi, ce qu'il a de plus personnel, de plus intime. Comment y parvenir ? C'est ce qu'on va maintenant essayer de voir. Et Baudelaire va opter très très rapidement, alors qu'il n'a encore qu'une vingtaine d'années, pour une tactique d'écriture, donc il est facile de vous donner une idée, qui consiste à aller toujours vers une expression qui soit beaucoup plus concrète, qui va justement essayer de casser les clichés, les images que j'évoquais tout à l'heure en citant quelques extraits pris au hasard dans ses poésies. On en a un témoignage très intéressant avec un texte qu'il a coécrit avec un de ses amis lorsqu'il avait 22 ans, Idéolus, qu'il coécrit avec Ernest Praron. Ernest Praron qui deviendra ce qu'on appelle un littérateur, petit poète, journaliste, et qui vivra longuement jusqu'au début du XXe siècle. Praron lui propose une première version du texte auquel il travaille, et Baudelaire va corriger Praron. Et ça nous montre tout à fait qu'à 22 ans, il avait déjà une idée assez nette de ce qu'il fallait faire pour essayer justement de ne pas faire de la poésie cette espèce d'objet formaté auquel il conviendrait de ne pas toucher, mais d'essayer justement de faire entendre son moi et d'associer à l'expression poétique l'idée d'une expression quelque peu vigoureuse qui redonne de la présence, de la force au verbe poétique. Praron écrit ainsi: À propos, ce beau soir, et Baudelaire corrige, bah, tais-toi, ce beau soir. On a quelque chose qui est évidemment tout de suite beaucoup plus fort, beaucoup plus vif. Je continue. Praron écrit, estomac que jamais n'emplit une bouteille. Baudelaire, estomac que jamais ne creva une bouteille. Praron, le rire adroit. Baudelaire, l'adroit coup d'œil. Reçu par Saint Rivaux, happé par Saint Rivaux. On voit que à chaque fois, là où Praron écrit une banalité, Baudelaire trouve quelque chose qui est tout de suite beaucoup plus concret. Happé, crevé, battez-toi, avec une interjection volontairement non seulement orale mais vulgaire. Et je pourrais comme ça multiplier les exemples, je vous en ai encore deux, trois autres. Praron écrit « Un feu follet en course sans succès fait épuiser les jours ». Et Baudelaire écrit « Un feu follet dans des marais sans fond fait se noyer les jours ». Là où Praron écrit « Les longues nuits ou les noirs soucis », deux clichés, Baudelaire écrit « Les lentes nuits, les longs ennuis ». Les ennuis devenant, étant longs, c'est-à-dire étant tirés vers le domaine concret. Alors ça, c'est un truc de Baudelaire qu'il utilisera toute sa vie et dont sa poésie fournit de très nombreux exemples. Cette volonté de concrétiser, en fin de compte, sa poésie, son verbe poétique. C'est un moyen pour lui déjà l'habiter d'une certaine force, d'une certaine vigueur. Mais évidemment, cela ne fait pas un projet en soi. Et c'est donc ce dont j'aimerais maintenant vous donner une idée. En commentant non pas le titre « Les fleurs du mal » qu'il a été longuement et de nombreuses fois, mais les deux autres titres auxquels Baudelaire avait auparavant songé pour appeler le recueil auquel il travailla, en fin de compte, de 1838 jusqu'en 1857, avant de le reprendre même jusqu'au début des années 1860, puisque le volume ayant été condamné, il a entrepris une deuxième édition, qui est en général celle que l'on cite comme référence, qui paraîtra en 1861. Donc c'est un projet de plus de 20 ans, mais au départ, au début des années 1840, entre 1845-47, il ne pensait pas du tout appeler ce recueil Les Fleurs du Mal, il cherchait des idées de titres, et un titre auquel il songe, c'est Les Lesbiennes. C'est un titre qu'il annonce à 6 reprises dans la presse, entre 45 et 47. Alors bien sûr, il y a des poèmes des Fleurs du Mal qui mettent en scène des lesbiennes. Sed non satiata, Lesbos, Femme d'année, Delphine et Hippolyte, et puis l'autre poème qui porte le titre de Femme d'année. Mais ce qu'il nous faut interroger, c'est pourquoi il a imaginé ce titre. Il ne s'agissait pas uniquement de provoquer le lecteur. Lesbienne désigne les habitantes de Lesbos. Lesbos est, dans l'imaginaire du XIXe siècle, tout d'abord un lieu privilégié de la poésie antique. Selon la mythologie, c'est en effet là que le cadavre d'Orphée, déchiré par les Bacchantes, aurait dérivé jusqu'à Métime, qui est donc située dans l'île de Lesbos en Grèce. Cadavre d'Orphée, donc Orphée qui est l'une des incarnations du poète, celui qui est allé chercher celle qu'il aimait, Eurydice, dans les enfers, et qui, pour s'être retourné, l'avoir regardé avant de quitter les lieux infernaux, eh bien l'a perdu à nouveau. Ce mouvement est considéré comme métaphorique, sinon allégorique, de la quête poétique par elle-même. C'est un récit que l'on rapproche aussi souvent de celui de Prométhée ou encore de Lucifer. Et ces entités sont souvent associées donc à l'idée de quête poétique. Ce n'est pas un hasard si le diable, d'ailleurs, occupe une place importante dans Les Fleurs du Mal et aussi dans les poèmes en prose, dans le Spleen de Paris, puisqu'il est lui aussi l'une des incarnations possibles du poète, celui qui a essayé de voler, qui a essayé de rivaliser avec Dieu. Mais Lesbos, c'est aussi la patrie de Sappho. Sappho qui avait créé à Lesbos, dans l'île de Lesbos, une école de poésie et de musique pour les jeunes filles de bonne famille. Et cette association d'Orphée et de Sappho en faisait dans l'imaginaire du XIXe siècle un espèce de paradis terrestre des poètes, en quelque sorte, pour Baudelaire et ses contemporains. et en même temps associé à l'idée de la chute. Car, comme Ovid le raconte pour les anciens, Sappho se serait épris de Faon, je le prononce ainsi pour en donner l'orthographe, qui était, attention, un homme dont elle s'était épris et qui la conduira à se jeter dans la mer Égée et à s'y noyer. Donc l'idée d'une fin tragique, d'une perte et d'une chute, en référence à la chrétienté, est inscrite également dans le destin de Sappho, est déjà inscrite dans le destin de Sappho, tel qu'Ovid la raconte. Mais au XIXe siècle, par ailleurs, on prête à Sappho ce qu'on appelait les amours saphiques, c'est-à-dire comme dirigeant une école de jeunes filles, se sont développées peu à peu des représentations qui ont fait que cette école était non seulement une école de poésie et de musique, mais aussi où les jeunes femmes s'aimaient les unes les autres. À partir de là, l'idée de la chute et de la perdition s'est encore accentuée, attachée à cette représentation de Lesbos. Et bien sûr des lesbiennes, des habitantes de Lesbos. On peut ajouter un autre motif qui active cette idée de la perte, qui est un motif d'actualité. À l'époque, la Grèce et la Turquie sont en conflit et Lesbos était aux mains des Turcs. Et donc ce paradis perdu des poètes qu'était Lesbos était un paradis perdu politiquement, puisque tombé aux mains des Turcs et apparaissait comme les ennemis, à l'époque, évidemment, des Européens. Alors, le saphisme que j'ai évoqué à l'instant, donc les amours lesbiennes, était également un thème très important dans les représentations socioculturelles du milieu du XIXe siècle. Vers 1845, il y avait un poème qui circulait à Paris dans les milieux bohèmes, qui s'appelait « Les lesbiennes de Paris », et qui était une œuvre collective écrite à de nombreuses mains, et qui désignait un certain nombre de femmes, actrices, prostituées, parfois auteurs de premier plan, comme étant des lesbiennes. On peut citer deux amies de Baudelaire et prostituées, Élise Sergent et Jeanne Duval. On peut penser à Louise Collet, qui était une poétesse, Georges Sand, bien entendu, que l'on ne présente pas, ou encore Marie Dorval, qui était une des plus célèbres actrices françaises de l'époque. C'était des personnes que Baudelaire fréquentait. Et donc, du point de vue socioculturel, le saphisme et les lesbiennes, peu importe la vérité, évidemment, des amours qui étaient celles de ces femmes, était quelque chose qui faisait partie du discours socioculturel du temps. Par ailleurs, il y avait bien sûr une tradition qu'on peut appeler plus intellectuelle autour des poèmes lesbiens, c'est-à-dire des poèmes de Lesbos. Sappho était une poétesse. Elle a écrit donc des poèmes dans la tradition qu'on appelle anacréontique, que je ne vais pas présenter ici, mais que par exemple Ronsard et de nombreux poètes de la Pléiade avaient repris. Et on sait que Baudelaire avait une très grande admiration pour Ronsard. Mais on connaissait au milieu du XIXe extrêmement mal l'œuvre de Sappho. On n'en connaissait que quelques fragments et deux poèmes, l'Ode à la femme aimée et l'Ode à Aphrodite, qui sont l'un comme l'autre des poésies sensuelles et violentes, qui effectivement donnent à apercevoir une Sappho qui va permettre de supporter les fantasmes, et les fantasmes essentiellement masculins, évidemment, par les artistes de l'époque, puisque ces textes-là ont effectivement une orientation saphique où on l'entendait au milieu du XIXe. On peut aussi noter qu'en 1845, Adolphe Nouville, un poète aujourd'hui oublié, publie des poèmes antiques, et la troisième partie s'intitule « Les chants de Sappho, élégies ». Ce sont des plaintes, il y a 12 poèmes. Et ces poèmes reprennent des éléments, posent des éléments qu'on va retrouver dans la poésie, disons, saphique ou lesbienne de Baudelaire, c'est-à-dire inspirée de cette représentation socioculturelle de Lesbos. Tout d'abord, un décor hellénique, réduit à quelques éléments symboliques, comme un temple, un portique, un climat chaud. Un océan amer, puisque c'est l'océan où Sappho va se jeter de désespoir, et c'est l'océan également qui a amené le cadavre d'Orphée. un attrait pour le gouffre, pour l'abîme, puisque évidemment avoir des amours homosexuels était considéré comme quelque chose de condamné par la morale et donc associé à l'image de l'abîme et de la perdition, de la chute. Et en même temps, l'idée que dans ces amours troublés, eh bien, on recherchait un espèce d'idéal. Tous ces éléments sont déjà chez Nouville et on les retrouve, bien entendu, chez Baudelaire. Cette aspiration à l'idéal, je vais l'illustrer en lisant la fin des Femmes damnées, qui permettra, par la plume même de l'auteur, d'illustrer ce que je viens de poser. C'est un très long poème et à la fin, le poète dit ceci. « Descendez, descendez, lamentable victime, descendez le chemin de l'enfer éternel, plongez au plus profond du gouffre où tous les crimes, flagellés par un vent qui ne vient pas du ciel, bouillonnent pêle-mêle avec un bruit d'orage. Ombre folle, courez au but de vos désirs, jamais vous ne pourrez assouvir votre rage et votre châtiment naîtra de vos plaisirs. L'âpre stérilité de votre jouissance altère votre soif et raidit votre peau, et le vent furibond de la concupiscence fait claquer votre chair ainsi qu'un vieux drapeau. Loin des peuples vivants, errantes, condamnées, à travers les déserts, courez comme les loups, faites votre destin, âme désordonnée, et fuyez l'infini que vous portez en vous. » On voit bien dans ces vers que, pour Baudelaire, dans la frénésie de perdition qu'incarnent en quelque sorte les lesbiennes, ces femmes damnées, eh bien, il y a en même temps, d'une certaine manière, par l'excès sans borne auquel il les invite, l'idée qu'elles pourraient arriver à surmonter, en quelque sorte, une aspiration qui est qualifiée, par exemple, dans le dernier vers, d'infini, qui serait ainsi satisfaite, une aspiration, évidemment, qui correspond, quant à elle, à une élévation et non pas à une descente. L'extrait que j'ai lu commençait par les impératifs « descendez, descendez ». Un élément complémentaire pour bien comprendre ce que pouvaient représenter les lesbiennes pour Baudelaire, c'est aussi de bien voir que cette frénésie de la passion qu'elles incarnent à ses yeux est aussi pour lui un moyen de réunir la raison et les sentiments. Depuis Descartes, la tradition française les avait tendu à séparer l'un et l'autre, et les romantiques n'avaient pas véritablement réconcilié ces deux axes. Certains s'y étaient employés, mais beaucoup avaient justement joué la carte, d'une certaine manière, des émotions et des sentiments, de préférence à la raison, comme par exemple le titre du roman de Jane Austen, « Sense and Sensibility », raison et sans sensibilité, l'illustre bien. Comment se fait-il que les lesbiennes puissent réunir, en fin de compte, raison et passion? Cela tient, encore une fois, à la représentation culturelle qu'on en avait. Émile Deschanel, qui était un ancien camarade de lycée à Louis le Grand de Charles Baudelaire, présente ainsi Sappho et les lesbiennes dans la Revue des Deux Mondes de 1847. « Cette femme, en un mot, ne fut qu'amour. Amour idéal ou amour sensuel? De son temps, on ne faisait pas ces distinctions. Platon n'était pas venu encore isoler l'esprit dans la tête, le courage dans la poitrine et reléguer les appétits dans le ventre. » Deschanel pose ici de manière très claire l'idée que l'amour idéal et l'amour sensuel, finalement, ne faisaient qu'un pour Sappho. Et on a vu tout à l'heure, par les citations que j'ai lues extraites du Salon de 1848 de Baudelaire, que c'est lui aussi ce qu'il voudrait, ce qu'il cherche à faire. C'est ne pas faire de l'idéal un espèce d'absolu, ennuyeux, bête, stupide, impossible de toute façon à atteindre, mais d'essayer de réunir le pauvre, ce qu'il appelle dans le Salon de 1848, le pauvre moi de l'artiste, ou ce qu'il appelle encore ce qu'il y a d'individuel chez l'artiste, avec justement une certaine idée, nécessairement idéalisée, par exemple, du beau. Et donc, la lesbienne est un type socioculturel qui va l'incarner, parce que elle remonte à une époque qui est ici assignée à Deschanel, comme une époque étant précédant, en fin de compte, Platon, précédant l'émergence de la philosophie dont Platon apparaissait comme l'un des principaux représentants à l'époque. Ça explique par exemple que dans Lesbos, Baudelaire écrive ceci. Lesbos, terre des nuits chaudes et langoureuses, qui font qu'à leur miroir stérile volupté, les filles aux yeux creux de leur cœur amoureuse caressent les fruits mûrs de leur nubilité. Lesbos, terre des nuits chaudes et langoureuses. Donc on a une strophe, c'est la quatrième du poème, qui de manière sensuelle décrit les amours lesbiennes. Et puis, laisse du vieux Platon se froncer l'œil austère. Tu tires ton pardon de l'excès des baisers, reine du doux empire, aimable et noble terre, et des raffinements toujours inépuisés. Laisse du vieux Platon se froncer l'œil austère. Tu tires ton pardon de l'éternel martyr, infligé sans relâche au cœur ambitieux, qu'attire loin de nous le radieux sourire, entrevu vaguement au bord des autres cieux. Tu tires ton pardon de l'éternel martyr. Et on voit ainsi comment les lesbiennes sont assimilées à ce qu'il appelle, dans un des derniers vers que je viens de lire, les corps ambitieux, hein, ceux qui ont une aspiration, en fin de compte, forte, à s'élever, ou encore à voir s'éveiller en nous ce qu'il appelait, dans la citation que j'ai lue tout à l'heure du salon de 1846, le génie la poésie. Un autre intérêt probablement pour Baudelaire du type de la lesbienne, c'est que la lesbienne est par définition en marge de la société par rapport aux représentations évidemment culturelles et morales du milieu du XIXe siècle. Et donc cette marginalité socioculturelle est également évidemment un élément qui permet de la rapprocher du poète tel que Baudelaire le conçoit, c'est-à-dire non pas un poète qui écrit de la poésie à tout va en suivant les moules préfabriqués dont les artistes disposaient à l'époque, mais qui essaie justement d'exprimer son pauvre moi à travers le travail poétique qui est le sien. La lesbienne, comme le poète, recherche une certaine forme d'unité, unité de la passion et de la raison, aspiration à un idéal qui ne sera atteint, en fin de compte, que en suivant frénétiquement sa voie, quelle qu'elle soit, avec par derrière l'idée qu'il s'agit de retrouver un ancien paradis perdu. Mais si ce paradis a été perdu, c'est aussi, bien évidemment, parce que le monde moderne est en fin de compte un monde corrompu. Et ce regard sur le monde moderne, je vais en parler maintenant dans le dernier temps de cet exposé, où je vais m'intéresser à l'autre titre auquel Baudelaire a songé pour son recueil, après qu'il ait abandonné celui des lesbiennes, le titre auquel il a songé pendant assez longtemps, de 1848 à 1852, c'est « Les limbes ». Alors ce titre, d'une certaine manière, peut apparaître comme étant à l'opposé du précédent. « Les lesbiennes », bien entendu, était un titre extrêmement provocateur pour l'époque, puisqu'il désignait des amours, des femmes s'adonnant à des amours homosexuels, condamnées à tout va par la morale bourgeoise, par la religion. Et les limbes a avant tout un sens chrétien. Les limbes, je le rappelle, c'est donc le lieu où séjournent les âmes des justes qui vécurent avant Jésus-Christ et qui, donc, n'ayant pas eu la révélation, eh bien, n'ont plus accédé au paradis. Et c'est également là que séjournent les âmes des enfants morts sans baptême, pour les chrétiens. Et ce titre est un titre qui s'articule très bien avec le projet baudelairien, comme Albert Thibaudet l'a écrit en commentant cette tentation qu'avait eue Baudelaire d'intituler ainsi son recueil. Le catholicisme moins religieux que philosophique et littéraire de Baudelaire avait besoin d'un lieu intermédiaire, particulier, original, où se loger entre Dieu et le diable. Le titre des limbes marquait cette localisation géographique des poèmes de Baudelaire, permettait de mieux apercevoir l'ordre que Baudelaire a voulu établir entre eux, qui est l'ordre d'un voyage, et précisément d'un quatrième voyage après les trois voyages dantesques de l'enfer, du purgatoire et du paradis. Le poète de Florence continué dans le poète de Paris. Et Dante continué dans Baudelaire. Le rapprochement qu'Albert Thibaudet, au début du XXe siècle, a fait entre le projet de Baudelaire et l'enfer de Dante, qui était c'est donc la première partie de la Divine Comédie, et c'est essentiellement ce texte-là qui était lu, d'ailleurs aujourd'hui encore, continue d'être lu de Dante, plus encore que, plus que ne le sont le purgatoire et le paradis. C'est un texte, bien sûr, que Baudelaire connaissait et qui l'a manifestement inspiré. Je vais lire pour l'illustrer le poème qui s'appelle « Des profondis clamaoui, des fleurs du mal », qui s'intitulait tout d'abord « La Béatrix » et qui donc renvoie à la bien-aimée que de Dante qu'il a rencontré lors de son périple jusqu'au purgatoire et ensuite au paradis. Dans l'enfer, il était conduit par Virgile. J'implore ta pitié, toi l'unique que j'aime, du fond du gouffre obscur où mon cœur est tombé. C'est un univers morne à l'horizon plombé, où nagent dans la nuit l'horreur et le blasphème. Un soleil sans chaleur plane au-dessus 6 mois, et les 6 autres mois, la nuit couvre la terre. C'est un pays plus nu que la terre polaire, ni bête, ni ruisseau, ni verdure, ni bois. Or, il n'est pas d'horreur au monde qui surpasse la froide cruauté de ce soleil de glace, et cette immense nuit semblable au vieux chaos. Je jalouse le sort des plus vils animaux qui peuvent se plonger dans un sommeil stupide, tant les chevaux du temps lentement se dévident. Ce temps qui dure, ce paysage grisâtre, sans chaleur, sinon glacé, qualifié de polaire, n'est pas sans évoquer l'enfer de Dante, hein, qui est baigné dans une lumière grise, où il règne un climat pluvieux froid, qui fait endurer 1000 tourments aux damnés, qui les éprouve continuellement, avec un temps qui est un temps cyclique, répétitif, de telle sorte que d'une certaine manière, il ne s'écoule plus pour eux, sinon en de continues souffrances. Et on voit très bien que ce poème est inspiré par cette vision dantesque de l'enfer, en même temps qu'elle pose un thème baudelairien central, le poète qui se trouve donc dans un univers morne à l'horizon plombé, hein, correspondant tout à fait à la manière dont Dante représente l'enfer, et qui aspire à quelque chose d'autre, à sortir du gouffre dans lequel il se trouve. On retrouve ces images de très nombreuses fois dans Les Fleurs du Mal. Je vais juste en donner une deuxième illustration extrêmement célèbre et puis compléter mon commentaire. C'est le début du quatrième spleen. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis, et que de l'horizon embrassant tout le cercle, il nous verse un jour noir plus triste que les nuits. Quand la terre est changée en un cachot humide, où l'espérance comme une chauve-souris s'en va battant les murs de son aile timide, et se cognant la tête à des plafonds pourris, quand la pluie étalant ses immenses traînées, d'une vaste prison imite les barreaux, et qu'un peuple muet d'infâmes araignées vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux. Je ne lis que le début de ce poème extrêmement connu, l'un de ceux le plus souvent que l'on connaît de Baudelaire, parce qu'il développe très bien ce que dans « Des profondis clamaoui » il appelle un univers morne. Cet univers morne n'est pas simplement un enfer quelque peu idéal ou imaginaire. C'est en fin de compte aussi une représentation du monde moderne et plus précisément ici très certainement de la société du Second Empire telle qu'elle commence à se dessiner à l'époque. En effet, on pense que ce quatrième spleen aurait été écrit peut-être dès 1851, au moment où Napoléon s'apprête à entrer de plein pied dans sa fonction de dictateur pour régner pendant presque 20 ans, jusqu'en 1870, sur la France. Et donc, cet univers qui est un univers où il y a un ciel bas et lourd qui pèse comme un couvercle, ou qui devient un cachot où il n'y a plus d'espérance, ce n'est pas simplement le poète qui est triste, ce n'est pas le poète qui est angoissé, ce n'est pas uniquement cela. Baudelaire articule cela, car bien sûr, c'est une interprétation qui vaut, mais il l'articule avec une représentation politique du temps et un regard porté sur le monde moderne qui se dessine et que le Second Empire va pleinement dessiner et assumer, qui, bien sûr, a aussi une coloration politique, et j'y reviendrai dans quelques minutes en continuant de commenter les significations que l'on peut attacher au titre « Les Limbes ». Les Limbes, c'est, dont étymologiquement désigne donc la frontière, le seuil, réfère à l'idée que les poèmes recueillis sous ce titre seraient en quelque sorte des poèmes limbiques. Et le thème de l'enfant mort-né, puisque j'ai rappelé tout à l'heure que les limbes, c'était là que se rendait l'âme des enfants mort-nés sans baptême, est aussi quelque chose qui intéressait Baudelaire. En effet, c'était à l'époque un cliché, ce cliché de l'enfant mort-né, que l'on attribuait au recueil de poésie qui était donc publié, je l'ai rappelé tout à l'heure, par centaines, sinon par milliers, mais qui en fin de compte était extrêmement peu lu. La plupart des recueils de poésie étaient très peu lus. Et donc, un poète qui publiait un recueil et qui rencontrait, comme c'était très souvent le cas, peut-être 9 fois sur 10, un four, eh bien, il qualifiait son recueil d'enfant mort-né, ou on le faisait pour lui. C'était un cliché dans le discours critique littéraire de l'époque. Le titre Les Limbes est un titre qui va apparaître accompagnant 11 sonnets de Baudelaire qui paraissent le 9 avril 1851 dans Le Messager de l'Assemblée. Alors pourquoi je m'arrête à cette publication-là et à cette mention-là des Limbes dans les publications de Baudelaire? Il y en a eu plusieurs, hein, je l'ai rappelé tout à l'heure, entre 48 et 52. C'est que le 9 avril 1851, c'est le jour anniversaire de Baudelaire, c'est son 30e anniversaire. Autrement dit, pour un homme du milieu du 19e siècle, on peut considérer qu'il arrive au milieu de sa vie, au milieu de ce que sera le parcours de sa vie. Or, Dante ouvre l'enfer en expliquant qu'il se trouve au milieu du chemin de notre vie. On a donc par cette image l'idée que c'est un homme qui est déjà un petit peu avancé en âge, qui a sans doute 30 ou 40 ans, encore une fois avec les critères de l'époque. Donc un homme qui a avancé en âge, mais qui en 1851, pour ce qui est de Baudelaire, n'a donné aucune preuve éclatante de son génie. Baudelaire ne publiera Les Fleurs du Mal que 6 ans plus tard, en 1857, et il continue d'être un poète célèbre au sein de la bohème littéraire, connu dans les rédactions des journaux, mais qui, en fin de compte, n'a connu aucune reconnaissance publique forte. Ce qui l'amène, évidemment, à douter quelque peu, lorsqu'il arrive sur ses 30 ans, des capacités, finalement, qui sont les siennes. L'ennemi en est un témoignage, un des poèmes des Fleurs du Mal. « Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, traversé çà et là par de brillants soleils. Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage qu'il reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils. Voilà que j'ai touché l'automne des idées et qu'il faut employer la pelle et les râteaux pour rassembler à neuf les terres inondées, où l'eau creuse des trous grands comme des tombeaux. Et qui sait si les fleurs, nouvelles que je rêve, trouveront dans ce sol, lavé comme une grève, le mystique aliment qui ferait leur vigueur. Ô douleur, le temps mange la vie et l'obscur ennemi qui nous ronge le cœur, du sang que nous perdons, croît et se fortifie. » On voit bien, on comprend mieux en ayant ce poème à l'esprit, pourquoi autour de ses 30 ans, Baudelaire a pu songer à ce titre des Limbes. Il a pu s'imaginer comme étant lui-même un enfant mort-né. On le voit avec ce texte, parvenu à l'automne des idées. Alors aujourd'hui, quand on a 30 ans, on n'est pas à l'automne des idées, mais au milieu du 19e siècle, où l'espérance de vie était bien moindre, cette métaphore très traditionnelle pouvait parfaitement s'appliquer à cet âge. Et la question qu'il se pose, c'est « Qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve trouveront dans ce sol lavé le mystique aliment qui ferait leur vigueur ?» Il est très clair que régulièrement, Baudelaire avait des doutes sur sa capacité poétique, sur sa capacité à réaliser le projet qui était le sien, de n'être ni Lamartine, ni Chateaubriand, ni Hugo, ni Musset, d'être lui-même, de trouver une voie qui lui soit propre et qui lui permette de s'accomplir comme artiste. C'est donc aussi cela que Les Limbes, le titre qui succède chronologiquement aux Lesbiennes, vient illustrer. Les Limbes, c'est aussi, d'une certaine manière, donc l'obscurité où vieillissent les poèmes de Baudelaire, qui n'ont été publiés que dans la presse, n'ont pas fait l'objet encore d'un recueil, et au doute qui l'assaillent. C'est aussi peut-être un jeu avec un sens aujourd'hui oublié, mais qui était parfaitement vivant au milieu du XIXe siècle, qui est l'expression « être dans les limbes ». Être dans les limbes, comme le dit le dictionnaire littré, c'est être en enfance par vieillesse. C'est-à-dire que c'est être déjà vieux. C'est l'idée qu'on exprime aujourd'hui en disant « retourner en enfance ». Au milieu du XIXe, on disait « il est dans les limbes hein, » d'une personne âgée qui avait quelque peu perdu ses facultés. Et ça explique très bien chez Baudelaire cette fascination qui est sienne du néant, hein, de l'abîme. Il ne s'agit pas simplement, comme on l'a vu avec les lesbiennes, d'exprimer artistiquement une quelconque violence des passions, violence des émotions, que le type donc des lesbiennes, entre autres, véhiculait, mais que véhiculent aussi, par exemple, les choix que j'ai commencé par lire tout à l'heure d'une écriture extrêmement concrète, lorsque j'ai montré comment Baudelaire réécrivait la poésie de son ami Ernest Praron. Mais cette fascination pour l'abîme, le gouffre, c'est aussi la crainte de s'y perdre et de se noyer dans quelque chose qui ne mènerait pas finalement à un aboutissement, mais qui serait aussi le néant. C'est ce qui justement est illustré dans le poème qui s'intitule « Le goût du néant ». Morne esprit autrefois amoureux de la lutte, l'espoir dont l'éperon attisait ton ardeur ne veut plus t'enfourcher. Couche-toi sans pudeur, vieux cheval dont le pied à chaque obstacle bute. Résigne-toi, mon corps, dors ton sommeil de brute. Esprit vaincu, fourbu, pour toi, vieux maraudeur, l'amour n'a plus de goût, non plus que la dispute. Adieu donc, chant du cuivre et soupir de la flûte, plaisir ne tentait plus un corps sombre et boudeur. Le printemps adorable a perdu son odeur. Et le temps m'engloutit, minute par minute, comme la neige immense un corps pris de raideur. Et je contemple d'en haut le globe en sa rondeur, et je n'y cherche plus l'abri d'une cahute. Avalanche, veux-tu m'emporter dans ta chute ? On voit avec ce texte-là les très réels doutes que Baudelaire avait sur son propre travail poétique. Alors la crise que traverse Baudelaire ne lui est pas propre. C'est aussi, en fin de compte, celle de sa génération. Dans les Confessions d'un enfant du siècle, Alfred de Musset, en 1836, explique très bien que l'état de désespoir dans lequel il se trouve et qu'il décrit dans cet ouvrage autobiographique est dû aux conditions politiques qui sont celles du temps. Et Baudelaire lui-même va l'écrire très clairement dans une lettre qu'il adresse en août 1851 à sa mère, Madame Opic. Nous sommes destinés à n'avoir qu'une génération d'écrivains de second ordre. C'est un fait qu'il est important de bien constater, afin de comprendre que si les hommes de talent naissent à toutes les époques, il ne leur est pas toujours possible de se produire. L'atmosphère qui les entoure, l'air qu'ils respirent, le milieu dans lequel ils vivent, les absorbe souvent et les tue. Et jamais époque n'a présenté ce phénomène avec autant de gravité que la nôtre. Si je passais en revue la plupart des jeunes gens qui cherchent à se produire, je pourrais montrer comment ils sont tombés dans la lutte, comment ils ont perdu peu à peu ce qu'ils avaient d'original et de naïf dans le cœur. On voit bien par cet extrait que Baudelaire essaie d'articuler les doutes qui sont les siens avec la perception qu'il avait de l'état d'esprit général des hommes, et je dis des hommes puisque c'était essentiellement des hommes à l'époque, de sa génération. Il établit un parallèle, c'est un moyen de mieux exprimer ce qu'il éprouve, mais c'est aussi évidemment un moyen d'analyser son temps et de tenter de cerner aussi ce qui en fait la spécificité, ce qui en fait ce qu'il appellera dans Le peintre de la vie moderne, la modernité. Les limbes, je le disais tout à l'heure, c'est la frontière, c'est le seuil, c'est aussi le bord. Et donc, la génération qui est celle de Baudelaire, celle qui était née en gros autour de 1820, est une génération qui va se sentir privée du pouvoir politique en 1848. En 1848, on a donc l'instauration de la Seconde République, qui très vite va être reprise en main et débouchée donc sur la dictature, le Second Empire qui courra jusqu'en 1870. Et comme l'écrit Baudelaire dans le poème Reniement de Saint-Pierre, il considère que sa génération est une génération qui habite, je cite le vers, un monde où l'accillon n'est pas la sœur du rêve, où il n'y a en fin de compte plus rien à faire sinon à attendre, à se soumettre et à adopter une attitude passive. C'est ce que va illustrer, par exemple, le poème « Les hiboux », à travers une métaphore, bien sûr, où les hiboux représentent des êtres humains avec un arrière-plan fabuleux, hein, relativement traditionnel. « Sous les ifs noirs qui les abritent, les hiboux se tiennent rangés, ainsi que des dieux étrangers, dardant leur œil rouge, ils méditent. Sans remuer, ils se tiendront jusqu'à l'heure mélancolique, où poussant le soleil oblique, les ténèbres s'établiront. Leur attitude aux sages enseigne qu'il faut en ce monde qu'ils craignent le tumulte et le mouvement. L'homme ivre du nombre qui passe porte toujours le châtiment d'avoir voulu changer de place. » Et on voit comment il y a aussi l'idée d'une résignation qui s'exprime et qui est à la fois une analyse, une identification, une analyse et aussi une critique de son époque. Et ça m'amène à la troisième interprétation du terme de limbe. En effet, la première annonce de ce titre, Les Limbes, apparaît en novembre 1848 dans un journal dans lequel Baudelaire a publié parfois, qui porte le titre assez amusant de L'écho des mains, amusant pour nous du moins aujourd'hui, L'écho des marchands de vin. Et il annonce dans l'écho des marchands de vin, il ne publie pas un poème, mais il fait l'annonce d'un recueil de poésie de sa main qui s'appellerait Les Limbes. Donc il ne paraîtra que de fait sous le titre des Fleurs du Mal que presque 10 ans plus tard. Et il indique comme date de publication prévue le 24 février 1849. Or le 24 février 1849, c'est le premier anniversaire de la Révolution de 1848. Et ça suggère déjà qu'il y a sans doute un lien entre le titre Les Limbes et les événements politiques du temps. De fait, parmi les nombreux utopistes du temps, l'un des plus célèbres, Fourier, dans la théorie des quatre mouvements et des destinées générales, le nouveau monde industriel et sociétaire, paru en 1829, distinguait différents âges, différentes périodes dans l'évolution des sociétés modernes, et il a ainsi défini une période qui s'appelle la période limbique. La période limbique, c'est, je cite, l'âge du début social, l'âge du début social et de malheur industriel, qui mènera ensuite au dernier état, qui est pour lui l'état harmonien. Cette annonce publicitaire de Baudelaire a été commentée par un littérateur de l'époque qui s'appelait Jean Vallon dans le bulletin de censure de décembre 1848. Il note ceci, hein, donc le bulletin de censure, donc c'est une appréciation politique de cette publicité. Aujourd'hui, nous voyons annoncer dans l'écho des marchands de vin les limbes, poésie. Ce sont sans doute des vers socialistes et par conséquent de mauvais vers. Encore un disciple de Proudhon par trop ou trop peu d'ignorance. Donc on voit très bien que pour les contemporains de Baudelaire, et pour Baudelaire lui-même assurément, les limbes, hormis les significations que j'ai indiquées pour commencer, c'est aussi quelque chose qui a une signification politique, qui porte un regard sur la société contemporaine du poète. De fait, les sympathies socialistes de Baudelaire sont bien connues, sympathies qui se sont exprimées de manière concrète en 1848, lorsque Baudelaire donc a créé avec des amis une revue qui était très clairement socialiste d'inspiration qui s'appelait Le Salut Public. Baudelaire est également quelqu'un qui connaissait assez bien globalement le discours et certaines utopies socialistes, dont celle de Proudhon, avec qui il a eu des relations amicales et avec qui il a entretenu une correspondance. Cela ne signifie pas nécessairement, bien sûr, que politiquement, tous ses écrits reflètent de telles sympathies, loin s'en faut. Le parcours de Baudelaire est aujourd'hui, dans le milieu universitaire, extrêmement discuté. On peut trouver au fil de son parcours, de 1840 jusqu'en 1866, jusqu'à ce qu'il perde l'usage de la parole, au début de 1866, des propos qui peuvent parfois paraître comme parfaitement réactionnaires et d'autres au contraire comme très progressistes. Mais c'est à l'évidence un discours qu'il connaissait, qu'il appréciait pour partie, il l'a dit à propos de Proudhon, mais, et dont il s'est inspiré également pour construire son discours poétique. Bien des poèmes, là aussi, en témoignent. On peut par exemple songer à l'un des plus célèbres d'entre eux, « L'homme et la mer ». L'homme et la mer, qui est paru à l'origine en octobre 1852 dans la Revue de Paris, alors qui était, il faut déjà le noter, une revue républicaine, donc qui était plutôt une revue qui avait une certaine sympathie pour les idées progressistes, et qui, à ce moment-là, n'a pas été publié sous le titre qu'on lui connaît aujourd'hui, mais s'intitulait « L'homme libre et la mer », avec donc l'idée que celui dont il est question, c'est l'homme qui s'est libéré. Je relis ce poème qui, toutefois, est probablement connu d'une partie d'entre vous. « Homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir. Tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. Tu te plais à plonger au sein de ton image, tu l'embrasses des yeux et des bras et ton cœur se distrait quelquefois de sa propre rumeur au bruit de cette plainte indomptable et sauvage. » Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets. Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes. Ô mer, nul ne connaît tes richesses intimes. Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets. Et cependant, voilà des siècles innombrables que vous vous combattez sans pitié ni remords, tellement vous aimez le carnage et la mort. Ô lutteurs éternels, ô frères implacables. Alors, dans ce texte, il y a bien entendu un arrière-plan chrétien avec que va, par exemple, dans Les Fleurs du Mal, aussi illustré à Bel Équin. Mais il y a aussi un discours socialiste. L'idée que l'homme est fait pour la lutte, est fait pour se battre, bien sûr, dans le cadre du discours socialiste, pour combattre sa liberté. Et je rappelle que le titre du poème était à l'origine « L'homme libre et la mer ». Donc, on voit qu'ici, Baudelaire articule un discours chrétien et un discours socialiste. Il récupère, en quelque sorte, des discours qui appartiennent à des domaines qui étaient prégnants dans la société du temps. Et à partir de là, il essaie de construire de son propre verbe. Un des éléments qui apparaît ici de manière certaine, c'est cette idée de lutte, de combat. C'est une idée qui est récurrente là aussi sous la plume de Baudelaire. Walter Benjamin, dans ses travaux sur Baudelaire, qui sont aujourd'hui réunis dans un gros volume édité aux éditions La Fabrique, a très bien montré comment il y avait chez lui une conception du poète comme étant un héros, donc quelqu'un qui doit tout le temps être en train de lutter, de se battre pour réussir, en fin de compte, d'une part à trouver sa voie, mais surtout à trouver sa voie en se révoltant, en s'opposant à la poésie, mais aussi au monde tel qu'il est et tel qu'il le perçoit, et dont on a bien senti, ne serait-ce que par les extraits de quelques textes que j'ai lus, que Baudelaire portait sur lui un regard critique, même si ce regard n'était pas nécessairement toujours, loin s'en faut, un regard qu'on aurait pu qualifier de socialiste. Cette articulation entre ce qu'on pourrait appeler l'idéologie chrétienne et l'idéologie socialiste, on la trouve dans de nombreux textes, de nombreux poèmes des Fleurs du Mal. Et je vais en donner un deuxième, et ce sera également ma dernière lecture, avec « La mort des pauvres ». C'est la mort qui console, hélas, et qui fait vivre. C'est le but de la vie, et c'est le seul espoir, qui comme un élixir nous monte et nous enivre, et nous donne le cœur de marcher jusqu'au soir, à travers la tempête et la neige et le givre. C'est la clarté vibrante à notre horizon noir, c'est l'auberge fameuse inscrite sur le livre, où l'on pourra manger et dormir et s'asseoir. C'est un ange qui tient dans ses doigts magnétiques le sommeil et le don des rêves extatiques et qui refait le lit des gens pauvres et nus. C'est la gloire des dieux, c'est le grenier mystique, c'est la bourse du pauvre et sa patrie antique, c'est le portique ouvert sur les cieux inconnus. Alors ce poème a des connotations chrétiennes tout à fait évidentes, mais l'image qui en est donnée des pauvres, et l'idée même que le pauvre n'a pour seule consolation que la mort, Et c'est aussi un élément que l'on retrouve dans les discours progressistes du temps, chez les utopistes, mais aussi chez ceux que l'on appelait parfois les philanthropes, des hommes qui étaient des républicaines, qui se souciaient en fin de compte du sort des classes ouvrières. Et ces idées, ces représentations sont également présentes dans ce texte, avec cette idée de donner aux gens un endroit pour manger, dormir, s'asseoir, qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui encore dans certains discours humanitaires. Et donc, à côté de l'ancrage chrétien, derrière plutôt cet ancrage chrétien assez évident, on voit ainsi transparaître encore une fois dans la mort des pauvres un ancrage qui est, quant à lui, une inspiration qui est, quant à elle, plus poétique. Alors, on voit ainsi comment Baudelaire récupère en quelque sorte ses discours dans une intention poétique, puisque bien sûr, ce qu'il exprime ainsi, ce sont autant d'allégories, j'en ai donné par mes lectures quelques exemples, de ce que l'on pourrait appeler la posture ou la situation, pour reprendre le mot de Valéry, de Baudelaire. La manière qu'il avait de se percevoir dans la société de son temps. Il s'appuie pour ça sur des discours socioculturels qui lui permettent donc d'ancrer sa parole dans une réalité universelle, mais aussi des éléments qu'on peut appeler idéologiques, c'est-à-dire un ensemble d'images, de représentations, qui étaient ceux du milieu littéraire et artistique qu'il fréquentait. C'est donc à la fois une réalité large et en quelque sorte plus circonscrites, qui lui ont servi d'inspiration pour construire son verbe poétique avec cette idée essentielle que l'on trouve parfaitement exprimée dans Le peintre de la vie moderne, le texte donc sur Constantin Guy, qui était un artiste, mais à travers dans lequel Baudelaire s'est manifestement projeté. Lorsqu'il définit donc la modernité comme étant une espèce d'héroïsme qui consiste à continuellement se battre, en quelque sorte, pour parvenir à trouver sa voix, VOIE et VOX, tout à la fois en ce qui concerne un poète, à toujours avoir donc une posture qui consiste à articuler, pour reprendre encore des éléments que j'ai posés tout à l'heure au début de l'exposé, à articuler donc certains éléments qu'on peut qualifier d'idéaux, et avec mon pauvre moi, avec une idée, avec une individualité. Et la modernité, pour Baudelaire, en fin de compte, pourrait avant tout se définir par ce sentiment que eh bien, le poète doit constamment retrouver sa voix, doit constamment se justifier. Et ce qui fait la condition même d'un poète moderne, c'est que justement, il n'a rien d'assuré. Il est, d'une certaine manière, le contraire même du poète que j'esquissais tout à l'heure pour commencer, quand je rappelais combien la pratique de la poésie, la pratique des vers, était usuelle dans les années 1840-1850. C'était une pratique effectivement extrêmement usuelle, mais la poésie que l'on produisait ainsi était une poésie parfaitement stéréotypée, parfaitement formatée, ou figée en quelque sorte, qui n'admet pas le mouvement, hein, où il ne s'agit pas, où surtout il ne faut rien changer de place, pour reprendre des motifs qui apparaissaient dans le poème Les Hiboux que j'ai lu à l'instant. Et donc, être moderne, être en phase avec son époque, c'est en quelque sorte percevoir cela, et à partir de là, évidemment, avoir une impulsion qui va mener à faire exactement le contraire, c'est-à-dire à essayer de changer de place, d'acquérir un mouvement personnel. Et c'est ce mouvement, cette volonté d'être autre que cela, que le monde, d'une certaine manière, lui commande d'être, qui fait, c'est certainement l'originalité et la force de Baudelaire, mais qui fait aussi la modernité du poète sous le Second Empire. Le Second Empire, qui, rappelons-le, est une période de l'histoire de France qui, véritablement, va voir exploser, même si elle avait commencé, bien sûr, dans les décennies précédentes, la révolution industrielle, qui va voir s'imposer un monde où l'économie, la finance vont devenir des critères de valeur de plus en plus prégnants, et où l'art, en fin de compte, aura quant à lui, pardon, une place de plus en plus réduite. Et c'est donc aussi pour réagir à cette impression qu'il avait de voir la place de l'art diminuer, que Baudelaire a traduit par des allégories ce sentiment qui était le sien, qu'il fallait véritablement essayer de réveiller, éventuellement par des moyens violents, des images violentes et agressives, la poésie qui dort en chacun de nous, selon lui.